48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 92e MAG de 48 FM qui va traiter aujourd'hui, vous en avez l'habitude, de deux sujets d'actualité qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. À côté de moi, Nico qui est là. Bonjour Nico.
Salut Ludo. Bonjour à tous.
Autour de cette table, Violaine Robert, éducatrice spécialisée au sein de l'association La Maison des Parents et des Éducateurs Lozère. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être présente aujourd'hui avec nous. Également ici, eh bien, on va parler de truffes avec Jean-Yves Magot, technicien forestier, animateur du syndicat des trufficulteurs lozériens, qui vient évoquer la traditionnelle fête de la truffe, voire plus, à la Canourgue, qui se déroule ce dimanche. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va démarrer avec vous ce MAG, Violaine Robert. Donc, je rappelle, vous êtes éducatrice spécialisée au sein de l'association La Maison des Parents et des Éducateurs Lozère. Donc, c'est une association qui est toute jeune.
Oui, c'est ça, oui. Je suis actuellement en poste depuis octobre 2014, donc c'est très tout récent. Et du coup, cette association a été créée suite à un diagnostic départemental, en fait, qui expliquait qu'il y a manqué un besoin, en fait, en termes de temps relais pour des parents, et notamment les parents d'ados. On a pu constater qu'il y avait beaucoup de parents d'ados qui étaient en difficulté et qui avaient justement besoin d'avoir un temps, un espace pour pouvoir échanger avec un professionnel.
D'accord. Un diagnostic départemental, qui c'est qui l'a fait, ce diagnostic? Qui c'est qui l'a demandé au départ?
Je pense que c'est initié par le Conseil Général. Après, je sais qu'il y a plusieurs structures qui ont participé à ce diagnostic départemental et ensuite, ils ont un peu fait le point sur tout ce qui s'avait pu se dire.
D'accord. Donc l'association vient de se créer toute nouvelle en octobre 2014. Donc c'est un besoin en termes de soutien à la parentalité. Ce projet, à la base, a été porté par deux personnes, dont vous, c'est ça ?
Non, pas par moi, en fait.
D'accord.
Donc effectivement, elle a été portée par trois personnes, en fait, qui sont actuellement membres du conseil d'administration et qui ont donc porté ce projet.
Et qui sont ?
Alors, il y a Perrine Boissier, Florence Forny et la troisième personne que je n'ai pas encore rencontrée qui a un poste également au conseil d'administration.
D'accord, qui étaient déjà à la base dans ce domaine-là ?
C'est ça, oui. Après, c'est des parents aussi et puis c'est également des travailleurs sociaux.
D'accord. Donc, question de parentalité. Au final, quel est l'objectif de votre association ? Qu'est-ce que vous proposez ?
Nous, ce qu'on a voulu mettre en place, en fait, c'est de réaliser des permanences pour les parents tous les matins de 9h à midi. Pour permettre aux parents d'avoir, comme je disais, un temps, un espace où ils puissent venir interroger un petit peu toutes leurs difficultés en lien avec leurs enfants. Et du coup, ces permanences, elles s'effectuent. Donc voilà, j'interviens sur tout le département de la Lozère. Donc par exemple, le lundi, j'interviens à Florac. Le mardi, j'interviens à Langogne. Le mercredi, à Mende. Le jeudi, à Saint-Chély. Le vendredi, à Marvejols. Les personnes peuvent soit venir me voir en entretien individuel sur mes différents lieux de permanence, mais elles peuvent également bénéficier d'un entretien par téléphone. Pareil, c'est gratuit, c'est anonyme. Et donc, elles peuvent me joindre au numéro que je vais donner. Donc, c'est le 06 86 73 92 03.
Voilà, on redonnera le numéro, on le mettra sur les réseaux sociaux, sur notre site. Vous êtes accompagnée parfois d'une psychologue également ?
Oui, alors là, on a embauché une psychologue depuis peu, qui est là donc 3 heures semaine. On a découpé un temps de régulation avec moi. Et après, elle peut avoir 2 heures en temps famille. Donc voilà, pour des familles qui sont un peu plus en difficulté, de pouvoir avoir un échange aussi avec elle.
Vous avez démarré donc en octobre. Vous avez déjà dû voir un certain nombre de parents. Quels sont les problèmes qui sont soulevés par ces parents ?
Pour l'instant, c'est assez très divers et varié. Je peux avoir autant des parents avec des enfants bas âge que des parents d'ados. C'est des questions surtout en lien avec l'autorité, des ados qui écoutent.
En gros, vous jouez à Super Nanny, quoi. C'est un peu ça, non ?
C'est un peu ça. Après, c'est vrai que nous, on n'est pas là pour apporter des recettes.
Des solutions toutes faites,
on n'a pas, de toute façon, on n'a pas la baguette magique et on essaie d'accompagner les parents au mieux avec leur situation actuelle et qu'ils puissent eux-mêmes, en fait, trouver leur propre solution. En fait, on est là pour les engager dans une démarche de réflexion sur l'éducation de leurs enfants.
Vous avez le sentiment, en ayant fait un petit peu le... enfin, en rencontrant des gens, qu'il y a une vraie problématique autour de l'adolescence, l'enfance et le rapport entre parents et enfants aujourd'hui.
Après, c'est un peu le constat qu'il y avait qu'avec l'évolution de la société, etc., il y a de nouvelles problématiques qui sont mises en avant. Et c'est vrai que j'ai l'impression que... il y a beaucoup de parents qui sont de plus en plus démunis en fait face à toutes ces problèmes.
Pourquoi c'est lié à leur statut, par exemple famille monoparentale ou situation comme ça, ou en général dans les familles, vous avez l'impression qu'il y a un abandon ou qu'il y a une difficulté supérieure aujourd'hui à gérer ses enfants.
J'ai l'impression qu'il y a une difficulté aujourd'hui, il y a une difficulté supérieure étant donné le contexte sociétal actuel.
Mais qui viennent de quoi? Enfin, pour vous, hein, parce que c'est pas.
Ça, c'est. Enfin, je pense qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Après, il peut y avoir, voilà, par exemple.
Le temps de présence, c'est ça?
Pardon?
Le temps de présence à la maison?
Oui, ça peut être un facteur. Après, on voit par exemple, il y a beaucoup d'ados aussi qui jouent beaucoup aux jeux vidéo. Enfin, voilà, avec les médias, il y a des nouvelles problématiques qui arrivent comme ça et les parents n'ont pas forcément.
Sous la forme d'addiction, alors, c'est ça?
Oui, il y a des addictions. Après, enfin, il y a des ados qui ont du mal à se mobiliser aussi dans leur. Voilà, donc les parents sont souvent démunis de voir leur adolescent qui a du mal à se prendre en charge. Donc après, c'est comment est-ce qu'en tant que parent on peut se positionner et accompagner au mieux son enfant dans ces problématiques-là.
Oui, et donc au niveau des valeurs et du positionnement éthique de votre association, donc moi j'ai lu sur votre plaquette accompagnement à la parentalité sur un mode non normatif, aider la personne à mobiliser ses propres ressources pour trouver des solutions. Ces solutions, donc c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure,
oui, c'est ça.
C'est à la base de ce que vous proposez, c'est accompagner ses parents, mais c'est au final c'est quand même à eux de trouver les solutions qui correspondent aux problématiques de leur enfant.
Oui, tout à fait. Après, bon voilà.
C'est pas des recettes toutes faites, quoi.
C'est pas des recettes toutes faites. Et puis étant donné que c'est de la libre adhésion aussi, les parents viennent me voir s'ils en ont envie, ils peuvent venir me voir une fois ou plusieurs fois. Donc après, je me dis déjà, s'il y a cette démarche-là de vouloir venir pour interroger certaines choses, ça veut dire déjà qu'ils sont prêts à entrer dans dans quelque chose où ils puissent être accompagnés. Donc après, on essaie vraiment de prendre la personne là où elle en est, de prendre en compte aussi l'environnement dans lequel elle vit, sa situation économique aussi, au niveau de sa situation, au niveau de la culture, où est-ce qu'elle en est, et d'essayer d'accompagner la personne dans sa globalité pour qu'elle... elle puisse après trouver ses propres solutions, effectivement.
Vous disiez tout à l'heure que les trois quarts sont des travailleurs sociaux, donc vous avez déjà fait un constat de ce manque et que dans le cadre de vos activités de travailleur social, vous ne trouvez pas le moyen d'intégrer ça, cet accompagnement-là des parents En gros, vous disiez tout à l'heure que le constat avait été fait par des gens qui sont des travailleurs sociaux, c'est ça?
En partie, oui.
Ouais. Et que dans le cadre de leur mission, bon, je vais prendre par exemple une assistante sociale, ces gens-là, en fait, n'interviennent pas déjà dans l'aide ou dans le soutien à la parentalité?
Si, ils interviennent déjà. Après, c'est vrai que nous, l'idée de créer cette association, c'était de pouvoir aussi se détacher un petit peu du Conseil général, du CMS.
D'accord, de l'institution, quoi.
Voilà, et de faire de la prévention aussi, parce qu'il y a peut-être des familles qui vont être suivies par les travailleurs sociaux du Conseil général. Et il y a d'autres familles qui vont avoir des problématiques peut-être moins importantes et qui ne vont pas forcément vouloir se diriger dans un premier temps vers le CMS ou le Conseil général, mais plutôt venir en amont, nous voir nous, pour déjà essayer de voir si on peut trouver déjà, nous trouver des solutions, quoi.
Alors, je vous rassure, Violaine, j'avais pas compris la première question de Nico aussi avant qu'il reformule. oui, c'est parce que
c'est normal.
Mais ta question, c'est vrai, Nico, est intéressante parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont là pour aider.
Des institutions qui font ce travail-là.
Des
donc
institutions,
on se dit,
oui.
Bon, ça rejoint un peu la question de l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, pourquoi on attend des chèques scolaires? Pourquoi ça fonctionne pas dans la société? Pourquoi on a telle dérive? Mais que fait l'école? Que font les enseignants? Donc, c'est vrai que c'est facile de se dire sans arrêt, l'institution ne fait pas son travail. Bon. On comprend bien qu'aujourd'hui, pour aussi donner des informations à nos auditeurs, que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on a mis en place des institutions, qu'on a mis en place des moyens, ça coûte cher, c'est nos impôts, bien sûr. Ces gens-là font leur travail. Sauf que la société a changé, les besoins sont pas les mêmes, les réponses sont pas les mêmes. Qu'aussi, on a peut-être tiré un peu sur la corde en diminuant le nombre de postes, etc., etc., qui fait qu'aujourd'hui, tous ces moments un peu informels dont on a besoin avec les familles, qui ne rentrent pas dans des cases, hein, qui ne sont pas suivies, comme vous le disiez, qui n'ont pas, qui sont pas sur les minimums sociaux, etc. Tous ces gens, en fait, qui ont des passages ou des difficultés épisodiques dans la vie de leur enfant et dans le rapport qu'ils ont à leurs enfants, surtout au moment de la préadolescence et de l'adolescence. C'est souvent à ce moment-là, bon, enfin, on le sait tous quand on a eu des enfants, que c'est un peu compliqué et qu'on a besoin d'être accompagné. Donc, ce que vous proposez, en fait, c'est ça. C'est un accompagnement un peu plus spécifique, moins formel, moins normatif.
Tout à fait.
Pour essayer de redonner aux gens, en gros, de la pédagogie vis-à-vis de leur enfant.
Tout à fait. Oui. Et puis, c'est aussi l'idée de pouvoir voilà, faire de la prévention, c'est-à-dire pouvoir agir en amont, voilà, et pour qu'après la situation ne se dégrade pas et qu'on en vienne du coup à des suivis peut-être un peu plus soutenus. Et...
Quels sont les principaux, on va dire, problèmes que rencontrent ces familles aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qui revient régulièrement dans le débat avec ces familles?
Alors c'est vrai que pour l'instant,
étant c'est les addictions que seulement, non?
Non, pas que non, les addictions, que. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a, beaucoup de questions aussi en lien avec l'autorité parentale. Comment est-ce qu'on fait pour cadrer l'enfant? Comment ça se fait que quand on pose un cadre à un enfant de 8 ans, on peut pas le faire de la même façon que quand un enfant qui a 15 ans? Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là, j'ai l'impression qui sont assez prépondérantes, en tout cas, de ce que j'ai pu en voir, en tout cas, jusqu'à présent. Puisque, voilà, je suis pas en poste depuis longtemps. Donc c'est vrai que le temps aussi que je fasse connaître l'association, voilà, il y a pas non plus, il faut le temps que les parents sachent que ça existe et qu'ils puissent me solliciter.
C'est de l'éducation aux parents. Ouais. C'est vrai que souvent, on essaye de résoudre ces problèmes des jeunes en s'adressant directement à ces jeunes. Et vous, voilà, vous allez voir les parents pour les aider dans le cadre des problèmes qu'ont ces jeunes. Ça, c'est intéressant. Vous travaillez avec d'autres organismes ou pas du tout? Je sais qu'il y a des organismes qui s'occupent des jeunes, par exemple l'antenne de l'hôpital François Tosquelles de Saint-Alban qui est à Mende, où il y a des psychologues actifs.
Il y a l'AMPA aussi qui est à l'AMPA.
Ouais. Vous êtes en lien avec d'autres organismes?
Alors, du coup, là, ça fait partie un peu de mes missions pour lancer l'association, c'est-à-dire que j'ai dû me faire connaître aussi par toutes les institutions, les professionnels qui existent déjà sur le département. Et donc, j'ai pu effectivement rencontrer le CEDIF, le planning familial, le foyer rural de Florac aussi, avec lequel il y a des choses qui vont se mettre en place. Les écoles aussi, c'est des partenaires assez privilégiés des écoles des parents. Donc, c'est vrai qu'il y a une multitude de travailleurs sociaux ou d'intervenants avec qui on peut travailler. Et effectivement, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Donc voilà, après, c'est pour l'année. Enfin, ça va être en cours d'année, là, où tout va se mettre en place tout doucement.
Alors, il faut expliquer peut-être aussi que cette association, elle fait partie d'un mouvement national, hein, c'est ça? D'une
c'est
fédération
ça.
Nationale
elle en,
C'est ça.
Elle est en cours d'agrément.
Donc voilà, on est en train de faire un petit peu tous les papiers pour être agréé, donc école des parents. Donc l'école des parents, en fait, c'est géré par une fédération qui se situe sur Paris. Voilà, donc il y a à peu près 50 écoles des parents sur le territoire français. Et on est amené à se rencontrer de temps en temps aussi sur Paris, faire un petit peu le point sur ce qui se fait dans les autres départements. Et puis voir aussi quelles sont les problématiques les plus prépondérantes en fait sur le territoire.
D'accord. Et cette école des parents au niveau national est liée également à d'autres... Les associations plus importantes, tu en parlais en off avant, Nico, d'une association?
Oui, du CNAJEP, c'est-à-dire du Comité National des Associations de Jeunesse d'Éducation Populaire. Donc normalement, toutes ces associations font partie de l'économie sociale et solidaire et notamment de l'éducation populaire.
Donc, tout à fait.
Qui est d'actualité, puisque aujourd'hui, on s'aperçoit que à force d'avoir tapé et supprimé un certain nombre de financements publics auprès de ces associations, ben, elles ont déserté un bon nombre de territoires. Alors beaucoup les banlieues, beaucoup les territoires quand même difficiles et délicats sur lesquels les associations avaient un peu de moyens et besoin de moyens pour survivre. D'ailleurs, Jamel Debbouze en a reparlé, différents hommes politiques aussi sont intervenus pour expliquer que c'est vrai qu'on avait un peu déserté tous ces quartiers. Et puis les zones rurales dont on parle très peu, mais qui sont aussi des déserts pour beaucoup de nos concitoyens qui n'ont pas d'association. Alors le fait de revenir là-dessus... Bon, c'est une opportunité aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu ces événements du 7 et 8 janvier dernier qui nous ont bousculés et qui nous font nous poser des questions, comment mieux informer les gens, mieux les préparer. Il y a eu aussi tous ces phénomènes dont on a parlé, des enfants qui partent entre 15 et 18 ans en Syrie, qui s'engagent avec l'incompréhension des parents. Alors, et surtout une culpabilité énorme. Moi, ce que j'ai retenu de tous ces reportages qu'on a pu voir, c'est la culpabilité des parents.
Oui, c'est vrai.
Je trouve que c'est un truc qui est abominable. C'est en tant que parent, avoir fait des enfants, puis se culpabiliser de leur avenir, de qu'est-ce qu'on aurait mal fait, qu'est-ce qu'on n'a pas su faire. Alors, c'est vrai que la prévention, c'est essentiel. La formation des parents, c'est vrai que c'est essentiel. Que on n'est pas éducateur, on n'est pas enseignant, on n'est pas non plus de bons parents. Ça s'apprend d'être parent, je crois, qu'il y a des choses, surtout quand, en tant qu'enfant, on n'a pas été forcément aussi bien élevé. Donc, c'est difficile d'avoir des repères quand on n'en a pas eu, quoi.
Ouais.
C'est peut-être de redonner ça. Mais j'ai aussi le sentiment qu'au-delà de ça, qu'il y a une vraie responsabilité. C'est-à-dire que d'être parent, ce n'est pas quelque chose de facile et que ça ne peut pas être facile. Et que c'est un effort au quotidien. Et que quand on a des enfants, on a une responsabilité qui est énorme. Et qu'on n'a pas le droit de sacrifier nos enfants sur l'autel de nos propres plaisirs ou nos propres besoins. C'est un engagement. Ça, il faut le rappeler parce que souvent, voilà, on fait, les enfants font aussi un petit peu les frais de certains choix des parents. Quand on a des enfants, on doit se consacrer à eux, on doit être en alerte, on doit se donner les moyens, on doit les amener voir des spectacles, les ouvrir à la vie, les obliger à lire aussi peut-être. Les obliger à ne pas regarder la télé, les obliger à arrêter de jouer des jeux vidéo. Et ça passe par l'autorité. Hein, voilà. Et qu'il y a des moments où il n'y a pas de négociation. Quelqu'un disait très bien, la famille, c'est pas une démocratie. Et je crois qu'il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant, il n'a pas les moyens de choisir. Quoi. Enfin, il n'est pas en aptitude à choisir. Et que ce sont les parents qui sont là, avec leur souveraineté de parents, et qui doivent imposer un certain nombre de choix parce que c'est bon pour l'enfant. Voilà. Et ça, il y a peut-être un certain nombre d'écoles comme la vôtre, peut-être, qui peuvent, en tout cas, faire en sorte que les parents se réengagent dans l'éducation de leurs enfants.
Oui, tout à fait. Oui.
Hein, les enfants, ils sont à 70 ou 80% ce qu'on en fait, quoi. Donc, après, le reste, c'est leur libre arbitre et leurs expériences personnelles. Mais quand même, c'est énorme. Donc, il faut vraiment intervenir et très jeune.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de ces réflexions ?
Je suis entièrement d'accord et je me dis que c'est aussi voilà une manière aussi de voilà de déculpabiliser le parent, de se dire que c'est normal qu'on se pose des questions sur l'éducation de ses enfants. Enfin, c'est des choses qui voilà ça fait partie de la vie, voilà, de se poser tout un tas de questions et voilà de pouvoir accompagner le parent là-dedans, de pouvoir le déculpabiliser ou même après de pouvoir organiser des rencontres entre parents pour qu'ils puissent justement échanger entre eux sur des choses voilà des problèmes qu'ils ont pu rencontrer, qui sont pareils que les autres parents, ou des solutions aussi qu'on peut adapter dans sa famille. Enfin voilà, d'organiser aussi ces temps d'échange entre parents, c'est des choses qui peuvent aussi aider, qui peuvent aider les parents, quoi.
Voilà, c'est intéressant. Au-delà de ces questionnements de ses parents, vous retrouvez ce sentiment de culpabilité de parents qui n'arrivent pas à gérer leurs enfants?
Oui, c'est vrai que c'est un sentiment qu'on retrouve assez souvent et des parents qui disent mais comment ça se fait que ça marche pas, qu'est-ce que j'ai mal fait et du coup voilà qui se retrouvent très démunis,
qui baissent les bras
et qui sont vraiment qui ont vraiment besoin en fait d'aide et d'avoir ce temps de relais quoi.
Et là où il y a de la demande de l'enfant mais mal formulée souvent ou parce qu'elle est émotionnelle, parce qu'elle passe pas par le verbe de j'ai besoin de plus de cadre, en fait on comprend le contraire et on répond par la liberté ou un effet en tout cas libertaire qui est ben fais ce que tu veux quoi. Et en fait moi dans ma petite expérience à la fois de parent et d'éducateur ou d'animateur ou de directeur de centre de vacances, souvent le cadre extrêmement bien vécu par les enfants en fait, hein, ils en ont tellement besoin parce qu'en fait pour qu'un enfant grandisse, moi ce que j'ai souvent ressenti c'est qu'il a besoin de pousser le cadre. Et donc, il va chercher à pousser. Il pousse, mais quand il n'y a pas de cadre, il pousse rien, quoi. Et du coup, il trouve rien devant lui pour pouvoir l'arrêter. Et ce qu'il a besoin, c'est qu'on l'arrête. C'est qu'on lui dise stop à un moment donné.
Alors,
pas physiquement, bien sûr, pas par une baffe ou par... voilà. Mais physiquement, qu'on lui dise, là, t'as été trop loin maintenant. Maintenant, je reprends le pouvoir, voilà. Et c'est cette négociation entre cette liberté et les contraintes dans la vie familiale qui sont importantes à faire vivre aux enfants. L'heure d'aller se coucher. Bon, Il n'y a pas de négociation à un moment donné. Quand tu as 10-12 ans, tu as besoin de 9 à 10 heures de sommeil. Donc moi, j'ai décidé que c'était à 9 heures et je t'ai expliqué une fois que c'était bon pour ta santé. Je ne le réexplique plus, je te l'impose. Voilà, qu'il n'y a pas de négociation à avoir là-dessus. Sur la nourriture, c'est pareil, quoi. Qu'est-ce qu'il veut manger, mon petit? Ben non, il ne sait pas ce qu'il veut manger. Il n'a pas la culture gustative, la gastronomie. Il n'a pas toutes ces informations qu'on a quand on est beaucoup plus âgé. Donc, on lui donne à manger et on lui dit, fais confiance à tes parents, à ta mère, à ton père. Ils t'ont préparé des bons plats. Tu peux ne pas aimer, ouais, mais t'en manges.
Comment ça, papa cuisine mal? Voilà. Papa cuisine très bien.
Mais voilà, c'est aussi de dire que, bien sûr, il y a cette espèce de culpabilité, mais que il faut pas se culpabiliser d'être directif, en fait. C'est pas être sévère, hein, mais c'est être directif.
C'est être sécurisant, je dirais aussi. Oui. Voilà, un enfant, ça pousse les limites parce que, enfin, ça pousse le cadre parce que ça cherche les limites. Mais c'est un enfant qui est pas, voilà, qui a pas de cadre, il se sent pas en sécurité. Du coup, c'est là qu'après, on va avoir des comportements déviants. Alors qu'un enfant, voilà, qui sait qu'il a un adulte repérant, qui est là pour le guider dans ses choix, dans sa vie, c'est sécurisant. Et c'est là qu'après, il va pouvoir oser des choses et apprendre, en fait. Voilà.
Alors, ce qu'il faut aussi dire, je pense, aux parents, mais c'est très certainement ce que vous faites, c'est qu'on a le droit de se tromper, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas né avec ça. Donc, on tâtonne, donc on expérimente, et il suffit simplement d'en parler, de dire, bah, tu vois, là, je me suis trompé, quoi.
Oui,
donc, on va
fait.
Reprendre les choses ensemble, mais c'est faire l'aveu de ça, c'est aussi progresser en tant que parent. Voilà.
Tout à fait.
Et c'est à ça que vous servez, aider ses parents dans ce processus de réflexion. Pour vous faire connaître votre association et même pour aider justement les parents, vous avez en vue de mettre en place des interventions, des actions collectives. Donc, j'ai cru comprendre café des parents, des conférences, des soirées débats. Y a déjà tout un programme qui réfléchit sur ces actions.
Alors il y a des choses qui se mettent en place là justement en allant rencontrer un petit peu les professionnels, les intervenants voilà qu'il y a sur le département. Il y a plusieurs personnes qui seront intéressées pour voilà mettre des choses en place avec la maison des parents et des éducateurs. Donc je pense par exemple à Maison pour tous à Marvejol avec qui ont déjà mis en place en fait un espèce de petit café des parents le vendredi matin. Donc c'est des choses sur lesquelles je pourrais m'associer. Après l'idée c'est pas de rajouter des choses à ce qui se fait déjà en Lozère, mais peut-être de travailler avec plusieurs partenaires.
Voilà, c'est apporter votre savoir-faire.
Tout à fait, oui.
Voilà, il y a des cafés ouverts aussi aux personnes seules isolées. Donc peut-être des parents qui sont à la maison de quartier François Mitterrand à Fontanille, également à la maison solidaire. C'est vrai qu'il y en a un peu partout et c'est bien pour vous.
Oui, la maison solidaire a déjà organisé un certain nombre de rencontres avec les parents. Mmh. Ils font un petit peu ce travail sur la parentalité.
Oui.
Hein.
Mmh.
Il y a une psychologue demain à 17h30, je crois, à l'IFSI, au centre de formation en soins infirmiers de demande une conférence super intéressante sur justement les adolescents, l'adolescent tout puissant, que faire les parents, voilà, j'en profite pour le dire. Donc c'est mercredi, hein, si vous écoutez cette émission rediffusée. Non, mais j'irai bien, mais je suis à Angoulême, mon cher ami.
Ah, tu voyages à Angoulême.
Je voyage à Angoulême.
C'est bien ça, tu nous en parleras un peu plus.
J'en parlerai. Je serai en direct jeudi midi sur l'antenne en direct du festival de la BD. Voilà, je l'annonce aussi.
Super.
Après, c'est vrai que je voulais juste rajouter que nous aussi, on a commission, on peut réorienter, les parents, on peut réorienter les parents à des structures qui peuvent être plus compétentes aussi.
Ou plus spécifiques dans leur.
Oui, voilà, il y a des parents qui viennent avec qui nous énoncent une problématique qui peut être compliquée, notamment en lien avec les addictions, par exemple.
Oui, oui.
Moi, je vais pouvoir réorienter vers l'ANPA, des choses comme ça.
D'accord. Non, mais c'est bien qu'il y ait enfin une concertation un petit peu de tous ces acteurs-là.
Oui, c'est parce qu'on a l'impression qu'il y en a énormément qui travaillent chacun de leur côté, alors qu'au final, la problématique, elle est la même. Même si on ne s'adresse pas au même public, la problématique est la même à la base. Ouais.
Oui, et puis c'est vrai que ça fait aussi partie de mes missions d'arriver à faire du lien entre tout ce qui existe déjà sur le département pour arriver à rendre un peu cohérent et coordonner un petit peu toutes les actions qui se font déjà sur le département. Ouais.
Moi, j'avais une question sur le lien avec l'éducation nationale. Vous y avez pensé ou pas du tout?
Oui, alors c'est vrai que les écoles, c'est les premiers partenaires que je suis allée rencontrer. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en Lozère, donc je n'ai pas eu le temps de faire le tour de toutes les écoles. Mais je me dis que c'est primordial de les informer de la création de cette association parce que c'est des institutions avec qui on est peut-être moins amené à travailler ou peut-être à faire moins du lien. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de professeurs, de directeurs qui sont des fois confrontés à des parents qui leur qui viennent avec des difficultés, et c'est difficile en tant que professeur ou directeur de pouvoir faire ce travail-là avec les parents. Donc de savoir que cette interface existe et de pouvoir réorienter, je pense que ça peut être très intéressant en tout cas.
C'est sûr, en plus que la difficulté scolaire est un facteur aggravant chez l'enfant. Donc ça pose problème. Ça pose problème après pour le parent qui se dit bon, mon fils est mauvais à l'école. Alors en général on dit c'est les profs, ils sont mauvais. Non. Tous sont pas des champions du monde de l'éducation et de la pédagogie, mais en même temps. Je pense que si on met derrière aussi là les moyens d'accompagner l'enfant dans ses difficultés scolaires, mais qu'on en parle avec les enseignants, qu'on leur demande comment je peux l'aider moi en tant que parent, ça, les maths, je ne comprends pas tout en troisième, tout ça, mais comment je peux faire. Eux, ils ont des solutions, donc c'est vrai qu'on les interroge pas assez. Aussi de ne pas remettre la parole de l'enseignant en question à la maison, ça c'est important quoi. Le cadre scolaire, c'est le cadre scolaire. Quand on est parent, on n'est pas à l'école, donc on peut pas juger de ce qui se passe dans une classe. Et que l'enfant, il a toujours tendance à minimiser ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, etc. Donc, ne prenons pas parti, quoi. Parce qu'en plus, on le met en difficulté et ça l'aide pas. Parce qu'on va dire, oui, mais tu sais, ton prof, déjà, ça, c'est mort. Parce qu'on discrédite une personne.
Oui.
Et ça fonctionne pas, quoi. Pas du tout, jamais. Voilà. Alors, c'est pour ça que je pense que la relation avec l'éducation nationale est très, très importante. Avec les profs. En plus, ils sont souvent très très à l'écoute pendant les conseils de classe pour les rencontrer, pour faire en sorte qu'on comprenne mieux comment la relation. Alors des fois, les relations sont compliquées, quoi, parce que l'enfant, on sait pas, à la maison, il est cool, puis à l'école, il est pas cool, quoi. Donc voilà, comment on intervient là-dessus ? Ça, c'est des vraies questions.
Et pour justement parler à ses parents, mais également faire connaître votre association, vous organisez une soirée ce vendredi à 20h à la Chambre des métiers de la Lozère.
Oui, c'est ça. Donc du coup, pour faire connaître un petit peu notre association, on a décidé donc de faire cette soirée donc vendredi. Et donc c'est ouvert à toutes les personnes qui se posent des questions sur l'éducation, donc que ce soit les parents, les grands-parents, des professeurs, enfin c'est ouvert à tout le monde. Donc là on va, comme je le disais, présenter l'association, on va avoir un petit support vidéo aussi pour essayer de faire comprendre aux personnes comment est-ce qu'on accompagne les parents. Et après on vous invite aussi à venir nous faire partager vos idées, vos projets, s'il y a des choses que vous avez envie de faire vivre aussi dans l'association, enfin c'est vraiment ouvert. Et puis on recherche aussi, comme je peux le dire, des bénévoles qui peuvent venir s'investir sur des soirées qu'on peut faire, par exemple sur des choses très organisationnelles, ou des gens qui viennent carrément porter des projets sur le département, ou après des personnes qui peuvent venir s'investir dans le conseil d'administration. Donc pour l'instant, elles sont trois. Donc c'est vrai qu'après, s'il y a des personnes qui ont envie, on est tout à fait ouvert à toute proposition. Voilà.
Donc une jeune association qui débute, c'est bien. C'est bien, félicitations. Quels sont vos financements ? Parce qu'en fait, il y a du personnel déjà pour une très jeune association, c'est étonnant d'avoir les moyens de ces financements.
Vos partenaires financiers, peut-être ?
Alors, partenaires financiers, donc on est financé par la CAF, le Conseil Général et la MSA. Et puis après, au niveau de nos partenariats, il y a un partenariat avec la gendarmerie là, qui est en train de se mettre en place. Parce que c'est vrai que la gendarmerie est amenée à intervenir dans des familles en situation de crise. Et donc là, de pouvoir relayer l'information à ces familles-là. Enfin, du coup, il y a quelque chose qui se met en place avec eux, et je pense que ça peut être aussi quelque chose qui peut être très intéressant, aussi bien pour nous que pour la gendarmerie, finalement.
Ouais. Ça doit être en lien avec le CIDFF, non ? Parce que je sais qu'ils ont signé une convention avec le CIDFF.
C'est quoi le CIDFF ?
Le Centre d'information du droit des femmes et des familles.
C'est ça.
CIDIF.
Oui. Pardon.
Non, mais ça a changé de nom maintenant. C'est pour ça.
D'accord.
Ça ne s'appelle plus le CEDIF, monsieur Nicolas.
Parce que la gendarmerie, par exemple.
Comme la gendarmerie, ça s'appelle plus la gendarmerie.
Si, ça n'a pas changé, ça.
Donc après, c'est des choses qu'on va essayer de mettre un peu en place aussi. Parce que je sais que la gendarmerie, quand ils interviennent dans des situations de violence intrafamiliale, dans des familles, ils proposent à la famille de récupérer leurs coordonnées et de le passer directement au CEDIF. Donc là, c'est ce qu'on aimerait un peu mettre en place. C'est-à-dire que la gendarmerie arrive dans une famille où c'est difficile. Elle dit aux parents, si vous voulez, il y a la maison des parents, des éducateurs qui existent. Je peux prendre vos coordonnées et leur dire de vous rappeler. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place.
Oui, mais de toute façon, c'est nécessaire.
C'est ça. Allez, avant de faire une pause musicale, vous nous rappelez un peu les coordonnées pour vous joindre et l'adresse de cette maison.
Alors, donc le siège social de la Maison des parents et des éducateurs, il se situe à Mende, donc 4 boulevard du Soubeyran. Et sinon, donc vous pouvez me joindre au 06 86 73 92 03.
Voilà, et l'association La Maison des parents et des éducateurs organise une soirée donc ce vendredi à 20h, voilà, à la Chambre des métiers de la Lozère, venez nombreux.
Voilà, merci beaucoup Violaine
merci
Robert.
Beaucoup.
On vous garde un peu peut-être si vous
pas
voulez
de
parler
problème.
De la truffe.
Oui.
Alors, il n'y en a pas en dégustation, ça c'est un peu dommage, on en attendait, c'est pour ça qu'on vous a invité. Mais c'est pas grave, on va au moins
parce que là,
avaler des informations, ça aurait été pas mal. Et peut-être qu'on fera témoigner Eva qui est adolescente sur son bien-être ou son mal-être, sur la parentalité. Je vois qu'elle me regarde avec de gros yeux, c'était pas très bien, on verra. Allez, pause musicale, on revient de suite après. Et voilà, nous voilà repartis pour ce 92e mag et après la parentalité. On va parler de truffe avec la traditionnelle fête de la truffe à la Canourt qui se déroule ce dimanche. Donc pour nous parler du diamant noir, Jean-Yves Magot, technicien forestier, animateur du syndicat des trufficulteurs lozériens. Alors peut-être pour commencer, j'ai entendu dire que la truffe lozérienne est la plus connue et la plus chère du marché. Alors est-ce que c'est vrai ?
On aimerait que ce soit vrai. Malheureusement...
C'est pas
ni l'un ni l'autre des deux adages sont
vrais.
On est, il faut l'avouer en toute modestie, en Lozère, on est petit département truffier hein, par rapport
au Périgord et tout
au
ça.
Périgord et notamment au grand sud-est de la France, ouais. Le Gard, le Vaucluse, ça n'a rien à voir. Mais par contre,
on est
en termes
joueurs,
de qualité,
quoi,
on se maintient bien. On n'est pas des petits joueurs.
D'accord. Donc, la truffe noire dite du Périgord, on l'appelle comme ça aussi en Lozère ?
On l'appelle comme ça, les initiés l'appellent plutôt la mélano, parce que son nom latin c'est tuber truffe melanosporum, et les professionnels du milieu appellent ça tout simplement la mélano. On parle très peu souvent de truffe noire du Périgord.
Alors cette mélano, on la trouve où en Lozère ?
Je vous donnerai pas mes coins, je vous le dis tout de suite.
Ça, pour c'est comme des champignons, quoi. C'est pareil, quoi.
C'est parce un champignon.
La truffe est un champignon, alors ?
C'est un champignon, alors effectivement.
C'est un rhizome, c'est ça ?
On le voit pas, puisqu'il pousse sous terre, mais ça fait bien partie du monde des champignons. Pour vous répondre partiellement, quand même, pour faire de la truffe, il faut des milieux calcaires. Ah. Donc ça veut dire déjà tout le nord du département, on oublie. Tout le milieu sévenol, schisteux, on oublie. Et donc on a plus à faire
Cocos,
et essentiellement, ouais, effectivement, les gorges et les vallées du département.
Sur les pentes des gorges du Tarn.
Oui.
Hein, c'est là. Hein.
Oui.
D'accord. Bon, tu vois, t'es déjà...
Oui. Mais bon, c'est sous terre, alors j'imagine qu'il faut...
Déjà une première indication.
Voilà, il faut peut-être un cochon,
après,
un chien.
Après, à vos jambes, hein, ça grimpe, les pentes, ouais, du Cos. Hein, donc, voilà.
On la récolte en hiver, hein, la truffe, c'est ça ? Principalement.
Oui, alors une petite précision quand même. C'est vrai qu'on parlera essentiellement de truffe noire du Périgord, de mélano, mais il faut savoir qu'il y a d'autres truffes, notamment la truffe de Bourgogne et également la truffe blanche d'été, à ne pas confondre avec la fameuse truffe blanche d'Italie qui se vend très cher. Ces trois truffes se récoltent en principe à des moments un petit peu différents. Comme son nom l'indique, la truffe blanche d'été se récolte pendant la saison estivale. La truffe de Bourgogne est plutôt une truffe d'automne. On la trouve encore en hiver, mais elle apparaît plus précocement. Et donc après, la truffe noire du Périgord, la fameuse mélano, elle, on ne la récolte qu'à partir du mois de décembre, et ce jusqu'en février.
Quelle est la différence entre ces trois truffes ? C'est une différence gustative, c'est quoi ?
La couleur, déjà.
Alors, la couleur, d'un point de vue au niveau de l'extérieur, hein, l'enveloppe de la truffe, à quelques détails près, elle est quasiment la même. Elle est toujours noire et composée de petites verrues. Par contre, ce qui change pas mal, c'est l'intérieur. La truffe blanche d'été va avoir une coloration pas tout à fait blanche, hein, elle est un petit peu jaunâtre. La truffe de Bourgogne, elle, est plutôt marron chocolat. Et la mélano, la truffe du Périgord, elle, est à l'intérieur, est complètement noire, veinée de blanc.
Il y a une différence au niveau du goût, de la qualité des truffes ou pas ? C'est juste que
Oui, il y a une différence de goût qui est assez notable entre ces trois truffes. Apparemment, la plus prisée, ouais, c'est la mélano, c'est la truffe du Périgord.
Elle est plus petite aussi, non, en taille ?
Non.
Non ?
Non, pas forcément. Alors, c'est vrai que la truffe blanche d'été, on peut arriver à trouver des très beaux spécimens. Par contre, la truffe de Bourgogne, chez nous en tout cas, et de ce que j'en connais, c'est pas une truffe généralement très grosse. En mélano, on peut trouver des beaux spécimens hein, qui peuvent atteindre exceptionnellement jusqu'à 1 kilo. Mais ça, c'est vraiment extrêmement rare. Par contre, plus fréquemment, on peut trouver des truffes de la taille d'une balle de tennis. Hein.
D'accord. Ah oui,
c'est pas tous les jours qu'on trouve des trucs comme ça, mais voilà, c'est des truffes qui peuvent faire facilement 200 grammes, 250 grammes.
C'est de l'ordre d'une noix de...
Voilà,
c'est ça. Hein,
on va dire que la taille la plus fréquente, c'est une noix, une grosse noix.
D'accord. La production s'élève à combien de kilos par an en Lozère ?
En milliers de tonnes.
En milliers de tonnes, bien sûr. Si je dis ça, je vais attirer tous les rapaces de France et de Navarre. Non, très honnêtement, on va parler plutôt chez nous en dizaines de kilos, voire une petite centaine de kilos. Mais
sur tout le département.
Sur tout le département. Hein. C'est pour ça que je disais en préambule, on est quand même petit département.
Combien ça pèse une petite truffe comme ça ? De l'ordre d'une noix, 100
petite
grammes.
Truffe non, de la taille d'une noix, c'est une truffe qui va peser grammes. Une vingtaine de grammes.
Ouais, c'est ça, 20
voilà,
30 grammes.
Quelque chose comme ça. D'accord. Mais c'est vrai que bon, petit département truffier, on parle en voilà, dizaines de kilos voire une petite centaine de kilos. On n'est pas l'équivalent du Vaucluse, de la Drôme où là il y a des marchés où en un seul marché on peut commercialiser jusqu'à une tonne de truffes. Là, chez nous, c'est totalement différent.
Ouais. Donc c'est une production locale, une production d'amateurs, un peu plus,
oui.
C'est ça hein.
Uniquement d'amateurs.
Il n'y a pas de trufficulteurs.
Il y a des trufficulteurs non professionnels, d'accord. Donc c'est des passionnés, des amateurs. Et je vais dire que même au niveau national, on n'a pas de trufficulteurs réellement professionnels, c'est-à-dire de personnes qui ne vivraient uniquement que de la production truffière. Parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est une production qui est déjà... pas très bien maîtrisé, hein. On cultive pas des pommes de terre ou des carottes, hein. On plante, on essaye de mettre toutes
alors
les chances de
notre côté. Alors
il faut
expliquer peut-être que la truffe c'est pas comme un champignon qu'on trouve comme ça, hein. C'est un rhizome, c'est ça, qui vit en symbiose avec un arbre.
Oui, c'est une mycorhize. On appelle ça une mycorhize et la truffe c'est le fruit de cette mycorhize. Tout d'accord. Comme le cèpe est le fruit d'une mycorhize de cèpe. La différence, donc, c'est bien sûr que le cèpe, lui, il est aérien et on va facilement le récolter et le trouver. La truffe, c'est un petit peu différent, elle vit sous terre. Donc après, on a besoin d'auxiliaires pour ramasser cette truffe. Le meilleur des auxiliaires, c'est principalement le chien. Vous verrez si vous venez dimanche prochain à la Canourgue que le cochon est un très bon auxiliaire, mais il est plus difficilement transportable. Et puis en dernier lieu, il y a la mouche. Il y a certaines personnes qui vont récolter des truffes à la mouche. C'est une variété particulière de mouche. Alors là, je seulement vous dire que c'est l'école de la patience, hein. Parce que chercher
non,
une mouche.
Non, pas la mouche, pas par là.
chercher une mouche, c'est déjà plus difficile. C'est ça, non ? C'est des mouches naturelles qu'on ne dresse pas, donc il faut arriver à la trouver. Donc c'est presque tout aussi difficile que de trouver...
Ouais, c'est ça. Une fois que tu as trouvé la mouche, en gros, tu es sûr d'avoir une truffe. Quoi.
Presque.
Surveiller le sol, l'envol d'une mouche spécifique à la mouche.
C'est tout à fait ça.
C'est ça.
Donc le principe, c'est d'arriver à faire décoller une mouche à l'aide d'un bâton. Et une fois que la mouche a décollé, vérifier quand même qu'elle se repose bien au même endroit que l'endroit où on l'a fait décoller. Et là, on peut essayer de valider la chose en creusant un petit peu la terre
ouais,
à la main,
hein.
En
ouais.
Sentant la terre, parce que si quelqu'un est doué d'un odorat, on va dire, ne serait-ce que normal, en principe, là où il y a la truffe, la terre sent la truffe. Donc comme c'est un parfum qui est relativement développé, voilà, on arrive à localiser approximativement la truffe. D'accord. On se dit, on a trouvé une truffe, mais enfin... Il y a une truffe dans le coin, mais elle n'est pas encore
trouvée. Déjà, si tu vois quelqu'un dans les gorges du Tarn, qui a grimpé assez haut, qui est à côté des arbres, genre petit chêne,
qui sent la terre.
Éventuellement.
Qui gratte, qui joue avec un bâton, avec une bouche au bout, et qui en plus sent la terre, c'est bon, vas-y, c'est là, quoi.
Ah, mais t'es calé en truffe, hein.
Ah, ben moi, j'écoute tout, hein. Ce week-end, je vais y aller, quoi, parce que c'est la période.
Ouais.
Dites-moi, combien il y a de personnes qui font de la truffe à peu près recensées en Lozère?
Ouais, ou qui font partie du syndicat?
Alors, qui font partie du syndicat, ça m'est assez facile de répondre. On va dire qu'on est entre 70 et 80 adhérents.
D'accord, j'en connais au moins deux.
Ah, très bien. Moi, j'en connais un à partir d'aujourd'hui, enfin depuis aujourd'hui.
D'accord. Par contre, après des gens qui s'intéressent à la truffe, on en a certainement beaucoup plus. Alors, qui s'intéressent à la truffe à différents niveaux. Certains ont planté quelques arbres, voire ont fait de véritables plantations. Et bon, n'ont pas jugé utile de s'adjoindre des conseils ou l'association des trufficulteurs. Et puis après, il y a aussi d'autres personnes qui ont appris un petit peu la truffe par leurs parents, leurs grands-parents, par des copains,
assez...
et qui vont balader comme on irait chercher des cèpes ou des mousserons.
J'ai l'impression que c'est assez secret tout ça. Il n'y a pas une espèce de secret gardé de
l'omerta de la truffe,
non?
Alors effectivement, il y a quand même un secret. Ben déjà, le secret il est le même que pour tous les coins champignons. C'est vrai qu'on dit pas si on veut avoir une chance de trouver des truffes, et ben quand on trouve une truffière, on évite de le dire et de le crier sur la place publique. Donc ça effectivement, c'est une forme de secret. Par contre, après sur les moyens culturaux de produire de la truffe, sur les petites gambines,
ouais.
Là par contre, il y a beaucoup plus de partage qu'avant. Avant, c'est vrai que, effectivement, ça restait un monde très mystérieux. Celui qui avaient la chance ou qui avaient le la main, on va dire la main noire, on va pas dire la main verte.
La main jaune.
Non, avant, effectivement, il gardait son secret pour dire, ben, moi, je suis le meilleur trufficulteur du coin. Aujourd'hui, et notamment par le biais de nos associations, hein, qu'on trouve en Lozère, mais dans tous les départements truffiers, au contraire, on essaye de lever un peu ce secret pour que les gens y réussissent mieux dans la culture de la truffe.
Alors, c'est qui les meilleurs, là, dans la culture de la truffe, en France?
C'est qui les champions?
Les Aveyronais,
les Lozériens. C'est les Lozériens, incontestablement.
Nico, est-ce que tu sais que pour quand tu installes une truffière, après, il faut attendre 7 à 10 ans, voire plus, pour récolter sa première truffe? J'ai lu ça quelque
oui.
part.
C'est oui, énorme. Oui, c'est bien de cet ordre-là. Et je dirais que même, ça peut être plus long que ça. Aujourd'hui, on a fait un certain nombre de progrès sur la qualité des plants, sur la façon culturelle. Donc, peut-être aujourd'hui, on peut plus facilement dire, allez, attendez une dizaine d'années, vous allez commencer à produire. Mais sur des plantations plus anciennes, il y a des arbres qui commencent à produire seulement au bout de 15, 17, 20 ans. Donc c'est quand même globalement une école de la patience et surtout une école de passionnés. Parce que si on n'a pas cette passion-là, on ne peut pas attendre ce délai.
C'est sûr. Si votre femme vous dit, demain, tu me ramènes une truffe, je vais faire une omelette avec des truffes, chérie, on se revoit dans 7 ans.
Voire plus.
Je vais juste de planter les arbres.
Violaine, vous cuisinez la truffe?
J'en ai mangé, mais je ne la cuisine pas, non.
D'accord. Vous vous donnez des conseils également, au-delà de la façon de cultiver la truffe, la manière de la cuisiner, etc., ou pas du tout?
Oui. Alors là, par contre, la fête de la truffe et le rendez-vous qu'on donne dimanche prochain à tout le monde, c'est vraiment là le lieu et l'occasion d'en connaître un petit peu plus sur la cuisine de la truffe. Ce que l'on dit de toute façon systématiquement à toute personne qui veut cuisiner de la truffe, qui achète des truffes, c'est ne les faites pas cuire. Une truffe qui est cuite est une truffe qui perd tout son arôme. Donc vous allez payer une truffe, un prix relativement élevé, et vous n'allez avoir aucun effet dans votre
plat. Si on la met dans l'eau avec des patates, ça ne le fait pas, quoi.
Ça ne le fait pas du tout. Par contre, voilà.
Si on boit l'eau, quoi, en gros.
Et encore. À partir du moment où elle a bouilli, la truffe, c'est terminé. D'accord. C'est terminé. Dès qu'on dépasse les 100 degrés, c'est terminé.
En fait, c'est comme tous les produits qui ont déjà beaucoup de saveurs intrinsèquement, il faut très très peu les transformer, quoi. Donc il faut les mettre quasiment naturels sur les...
Voilà, c'est ça, alors hein. C'est vrai que les chefs cuisiniers, eux, ont des techniques, ont des combines, c'est leur métier. Ils savent préparer de la truffe avec parfois un minimum de cuisson et faire des plats très élaborés. Mais pour le cuisinier de base, lambda, notamment que je suis, eh bien
justement, c'était ma prochaine question. Comment vous la mangez, vous, la truffe?
Moi, je la mange très fréquemment sur des toasts, au beurre truffé. En fait, les produits laitiers, les œufs, ce sont des aliments qui conviennent très bien à la truffe. Vous brisez de la truffe et vous faites un mélange beurre-truffe, à raison d'à peu près 10% de truffe, vous allez obtenir un résultat qui est impeccable. Ce beurre, vous pouvez très bien l'utiliser sur des toasts, vous pouvez très bien le mettre sur un morceau de viande, dans des pâtes, enfin, après je vous laisse... toute l'imagination possible, mais c'est facile. En fait, je vais dire que pour réussir un plat à la truffe, il ne faut pas savoir cuisiner, comme moi.
Bon appétit pour ceux qui sont en train de manger un sandwich au jambon.
Râpez un bout de truffe sur votre sandwich, vous verrez, c'est excellent.
Et il faut la manger vite aussi, parce qu'elle se déshydrate. La truffe fraîche perd du poids au fil des jours, non?
Oui, elle perd du poids, et puis elle perd surtout de l'arôme, du parfum. Quand vous achetez une truffe, vous achetez une boule de parfum. Plus vous laissez le temps passer, plus ce parfum s'est diffusé. Et donc, au bout d'un moment, on n'a plus rien. Donc, on va dire que raisonnablement, une truffe, on peut la conserver facilement une semaine, au frais, hein, au frigo, ou en hiver, on peut la mettre dehors, sans qu'il gèle. Après, on perd quand même beaucoup d'arôme.
On la trouve à combien de profondeur? 20-30 cm ou voire plus?
C'est très variable. Souvent, les premières truffes de la saison sont très en surface. Certaines, qu'on appelle les truffes de marque ou les truffes fleurs, peuvent même dépasser de la surface du sol. On voit une petite bosse, on peut voir dépasser une truffe. Généralement, plus on avance dans la saison de production, et plus elles sont profondes. Mais, généralement, elles sont situées entre 5 et 20 cm.
Ah oui, d'accord.
Mais déjà, arriver à trouver une truffe à 20 cm sous terre sans savoir exactement où elle est, même avec l'aide d'un chien, sauf si vous le laissez gratter jusqu'à temps qu'il aille jusqu'à la truffe, c'est pas toujours évident.
Moi, j'ai un chat. Il m'aidera pas. L'an dernier, elle était vendue à Clermont-l'Hérault, 850 euros le kilo. On est à combien à peu près cette année?
Alors, petite précision sur le prix des truffes. On va dire qu'il y a un petit peu deux cours dans le monde de la truffe. Il y a les cours de gros, où là, le trufficulteur, il sort de sa parcelle, il a ramassé 100 grammes, 200 grammes, 1 kilo. Il va vendre sa production en bloc. Là, on va voir un prix cette année qui est relativement peu élevé, qui est aux environs de 300, voire 350 euros le kilo, avec un prix relativement élevé un petit peu avant la fin d'année, pour les périodes des fêtes de Noël et du premier de l'an. Au lendemain de ces fêtes, le cours s'effondre généralement à un niveau très bas, hein, 200 euros le kilo, et puis après il remonte progressivement. Cette année, globalement, les cours de gros sont relativement faibles. Après, quand on vend la truffe sur des marchés de détail, c'est un petit peu différent parce que là, toutes les truffes sont contrôlées une par une. C'est-à-dire qu'elles sont canifées. Déjà, on vérifie que c'est bien de la truffe noire du Périgord que l'on vend. Elles sont canifées pour voir si la truffe n'est pas gelée ou n'a pas de parasites internes, etc. Donc là, ça veut dire que quand on vend au particulier, pour vendre un kilo, on va peut-être en mettre deux de côté. Ce qui explique... Et surtout, un prix bien plus élevé. D'accord. Cette année, je peux pas encore vous dire à combien elle sera à la Cano, parce que ça se décidera au dernier moment, mais elle ne dépassera pas 800 euros le kilo. Alors nous, plutôt que d'afficher des prix au kilo qui rebutent, parce que c'est vrai que ça fait quand même une somme non négligeable, on préfère montrer une truffe, indiquer son poids, indiquer son prix, et informer la personne qui éventuellement est tentée de l'acheter, lui dire pour combien de personnes c'est, combien de plats vous pouvez faire avec cette truffe. Parce qu'en réalité, on peut très bien, pour 8 à 10 euros, satisfaire pas mal de convives.
Et j'imagine que c'est surtout des Lozériens qui viennent acheter leurs petites des grammes de truffes pour cuisiner. Il y a des gros acheteurs qui viennent sur la Cano également prendre au kilo, ou ça doit être rare, non?
Des gros acheteurs, ils viennent pas forcément le jour de la fête de la truffe, parce que ce que l'on appelle des gros acheteurs, généralement c'est des professionnels, c'est des restaurateurs. Donc eux, ils n'attendent pas le jour de la fête de la truffe. Et d'ailleurs, c'est pas trop étudié
pour ça. Ouais, c'est vraiment pour le chaland qui vient passer. Justement, cette fête de la truffe, donc c'est ce dimanche toute la journée. On parlait des chefs lozériens. Alors cette année, 4 grands chefs lozériens qui viendront présenter leurs réalisations avec des démonstrations culinaires, des dégustations.
Oui, ça c'est très important parce que les toutes premières éditions de la fête de la truffe en Lozère, on n'avait pas cet appui des chefs, et c'est vraiment très dommageable parce que sans cuisine, oui, sans professionnel de la cuisine, ben la truffe, elle sert à rien. Donc c'est vrai que depuis quelques années, on s'est adjoint l'aide de ces chefs cuisiniers. Donc notamment, il y aura Martial Paulet de l'Adonis à Florac, il y aura Cyril Atrasic de Camilou à Aumont, il y aura Frédéric Boutet du Chaudron à Mende, et il y aura Monsieur Brunel, restaurant
Rocher Blanc à la Garde. Donc ça, c'est intéressant. C'est toute la journée, c'est sur les coups de midi. On sait à peu près quand c'est, ou pas du tout, ou il faut se renseigner sur votre site internet?
On va faire ça toute la journée, un petit peu réduit, c'est-à-dire que chaque chef cuisinier aura environ une heure pour montrer comment est-ce qu'il cuisine la truffe et ensuite faire déguster. Donc on va dire que le matin, on va attaquer à 10h et finir aux environs de midi. Et l'après-midi, on rattaquera à 2h. Et on finira à 4h, grosso modo, pour les chefs cuisiniers.
Alors, il y aura également des... Est-ce qu'il y aura des ventes de plants truffiers cette année?
Il y aura des ventes de plants truffiers avec deux pépiniéristes assez connus et réputés qui sont tous les deux... qui fournissent des plants contrôlés, notamment par l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Il faut savoir que nous, on préconise au syndicat des plants qui ont subi un contrôle. Ça ne veut pas dire que les pépiniéristes qui font des plants non contrôlés font des mauvais plants, mais nous, en tant que syndicat, on se doit d'apporter un minimum de sécurité aux adhérents, et donc, voilà, on favorise...
C'est quoi comme plan?
Alors, c'est des plants, généralement, la grande majorité, c'est des chênes. Dans ces chênes, on a le chêne blanc, son vrai nom, c'est le chêne pubescent. On a le chêne vert, Et on a, dans une moindre mesure, le chêne Kermès, qui est le petit chêne des Garrigues aux environs de Nîmes et de Montpellier, qui fait plus un buisson qu'un véritable arbre. Chez nous, quand même, la majorité, c'est chêne blanc, un petit peu moins chêne vert, et exceptionnellement chêne Kermès, pour des endroits très, très arides. Après, on peut planter du noisetier. Et puis, il y a quelques autres essences d'arbres que l'on peut également préconiser, le tilleul, les noisetiers de Byzance, les charmes, parfois certains résineux comme le pin noir, comme les cèdres.
D'accord. Est-ce que la truffe est utilisée en pharmacologie ou pas du tout? Vous savez pas? Est-ce qu'on en fait des produits pharmaceutiques ou pas?
Tiens, chérie, j'ai ton aspirine à 70 euros. j'ai moins mal à la tête.
Ouais, bah attends, t'as vu la saveur qu'il a, cette aspirine?
Elle non, fait des drôles de bulles. Hein.
Parce qu'en général, les plantes comme ça, qui ont beaucoup d'arômes, de saveurs, sont souvent utilisées. Elles ont des vertus en médecine, quoi. Enfin...
La truffe est réputée pour être aphrodisiaque.
Ah, ben voilà, ben tu vois, Ludo.
Chérie, j'ai acheté un plan de truffier, on va pouvoir faire l'amour dans 15 ans. Ça marche
tu
pas.
Tu vas voir ce que tu vas voir.
Dans 15 ans. Non, n'importe quoi, Nico. Je sais plus quoi dire, du coup.
Oui, moi, je voulais vous demander aussi, en fait, oui. Les cours de la truffe, quand même, en off, vous me disiez que c'était qu'il y avait beaucoup de spéculation, quand même, sur...
Alors, c'est des choses qu'on maîtrise relativement mal. Par exemple, nous, cette année, on nous dit que le cours de la truffe est à un bas niveau du fait d'une très bonne production dans les pays voisins, et notamment l'Espagne. Il faut savoir que l'Espagne a planté beaucoup de plants truffiers avec un modèle, on va dire, assez agricolo-agricole, hein, travail du sol, extensif. Irrigation. Là, c'est pas de l'extensif, ce serait plutôt de l'intensif.
De l'intensif.
Alors que nous, on est plutôt sur des modèles, en tout cas en Lozère, des modèles plutôt extensifs. On n'a pas trop les moyens d'arroser parce que on arrive très difficilement à pomper dans des nappes. Quand on est dans les côtes des gorges du Tarn, de la Gente, aller chercher l'eau, hormis si on la récupère du ciel dans des bidons, enfin par des moyens très artisanaux, on a du mal à avoir de l'eau à disposition. Donc on est, nous, sur des modèles très extensifs. Voilà. Cette année,
donc ça suit,
on a eu une année assez humide, et du coup, l'Espagne, pays bien méditerranéen, si elle a bénéficié d'eau, ben, ça a été relativement favorable à la truffe. Et voilà, on nous dit que l'Espagne a une bonne production, donc c'est notamment ce qui peut faire baisser un petit peu les cours.
D'accord.
Y aura-t-il Kiki le cochon cette année ?
Normalement, il devrait y avoir Kiki le cochon qui viendra, lui, du Périgord.
Mais c'est qui, Kiki le cochon ? C'est parce que je connaissais Dédé, c'est qui Dédé ? Mais là, Kiki, c'est qui ?
Tu connais pas Kiki le cochon ?
C'est un petit cochon tout rose. Il était déjà venu l'année dernière. Je pense que cette année, ça sera son petit frère ou son descendant.
Ouais, parce que
en un an, le kiki de l'année dernière, voilà. Il doit être difficilement transportable. Donc là, par contre, on peut vraiment remercier un trufficulteur de la région de l'Albinque, à côté de Cahors, qui se fait un plaisir de monter en Lozère pour nous faire des démonstrations avec son cochon.
Voilà, ce sont des cochons qui sont dressés à l'art de dénicher les truffes.
Tout
c'est
à
ça.
Fait.
C'est ça. Alors, il y aura également plein de choses. Hein. Il y aura des expositions. Une exposition, non ? J'ai cru lire ça. Ou des tombolas truffés. Ou je sais
oui,
pas,
on va faire jouer un petit peu les marché gens pour de essayer de leur faire gagner une truffe. On aura plein de producteurs locaux. Hein. On privilégie la production locale. Donc, ça va être du fromage, du pâté, des charcuteries, du petit artisanat local, etc. Normalement, ça devrait sentir bon dans cette salle des fêtes de la Canourgue. On aura également la venue de quelqu'un qui était venu nous faire une journée de formation sur la taille des arbres truffiers. Parce que ben nous, chez nous, on taille très peu. Comme je vous l'ai dit, on est petit département truffier. On est peut-être un petit peu en retard par rapport à d'autres départements qui, eux, taillent leurs arbres depuis fort longtemps. Donc là, on a fait venir quelqu'un qui vient du, si je me trompe pas, du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne, pardon. Et qui manie bien la tronçonneuse et s'est proposé de nous faire une démonstration de taille de truffe sur souche de bois à la tronçonneuse. Et puis s'il a la forme, il fera aussi peut-être quelques cèpes ou quelques girolles à la tronçonneuse.
Très bien, on vous invite tous à la Canourgue ce dimanche, donc c'est quoi, 10h, 17h à peu près, c'est
on va attaquer un petit peu plus tôt, on va attaquer à 9h, il faut savoir que généralement, les gens qui viennent de bonne heure, ce sont des connaisseurs. On a remarqué que à 9h, nos premiers clients, c'est pas des gens qui vont dire comment que ça pousse la truffe, etc. Ils vont tout de suite regarder, ils vont sentir 2-3 truffes et ils embarquent le butin. Donc on attaque à 9h et généralement on finit vers 17h.
Il y aura de la truffe pour tout le monde ? Ou il faut quand même se dépêcher ?
Je l'espère.
La truffe à gougou.
Le problème, c'est que bon, on va vendre des truffes fraîches. C'est des truffes qui vont se récolter à partir d'aujourd'hui. Hein. On demande aux trufficulteurs de pas ramasser ça 15 jours avant. Hein. Donc, si le temps le permet, bah, normalement, on devrait avoir des truffes. Notre seul souci, c'est s'ils se mettaient à neiger ou à geler à pierre fendre. Et là, on serait bien embêté. Pour le moment, le temps, même s'il n'est pas super beau, super ensoleillé, devrait nous permettre d'avoir suffisamment de truffes pour les clients que nous verrons dimanche.
Ok. Et est-ce que Nico va pas aller toutes les récupérer avant dimanche aussi ?
Ça, la, c'est veille, je
la veille, tu négocies la veille.
Ouais, affaire,
alors, vous regrettiez tout à l'heure que je ne sois pas venu avec un petit beurre truffé ou un truc comme ça.
Oui.
C'était pour vous attirer dimanche. Sinon, vous ne viendriez pas.
On va vous le rappeler dimanche, on viendra.
Pas de problème, on vient manger le beurre, vous vous rappelez.
Pas de souci, on vous accueillera avec plaisir.
Merci beaucoup. Merci. Donc dimanche, cette fête de la truffe, vendredi soir à 20h, eh bien la conférence de la Maison des parents et des éducateurs à la Chambre de métiers et de la Lozère. Merci à nos invités d'être restés en notre compagnie pour ce 92e MAG. Merci Nico.
Merci,
on va écouter une petite chanson si ça marche. Et
puis bon festival d'Angoulême, Ludo.
Merci.
Bon voyage
pour moi. Merci, je vous tiendrai au courant sur cette antenne. Allez, un petit morceau si ça marche et l'agenda culturel juste après.
Feeling free like you don't even know it. And you're throwing a line open, you just don't.